Voici les matins avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une journaliste avait été condamnée au Maroc pour avortement illégal. Elle a été graciée hier par le roi. Vous entendrez les réactions des militants à l'annonce de sa libération.
Londres et Bruxelles tentent d'arracher un accord sur le Brexit, mais leur tourne. Un sommet européen crucial s'ouvre aujourd'hui.
L'offensive turque en Syrie risque de passer au second plan pendant ce sommet. Pourtant, la situation humanitaire est catastrophique. L'exode a commencé. Reportage dans un camp proche de la frontière syrienne. Nous reviendrons aussi sur l'audience très suivie hier d'Irène Frachon au procès du scandale sanitaire du Mediator. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, on va revenir sur le chlordécone. Vous savez, c'est ce pesticide particulièrement nocif. Pourquoi la France a-t-elle tardé à l'interdire aux Antilles? On posera la question à Malcolm Ferdinand. Il est ingénieur en environnement.
La grâce royale a corrigé un procès injuste. Les mots de la journaliste Hajar Raissouni hier soir après sa libération. La jeune femme avait été condamnée par la justice marocaine le mois dernier à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Mais le roi, Mohamed VI, l'a graciée. Elle, son fiancé et son gynécologue également condamnés. Une décision attendue par des militants qui dénonçaient un procès politique. Théa Olivier.
Habillée d'un t-shirt blanc flanqué du sigle « Hors la loi » en arabe, la réalisatrice Sonia Terab avoue être émue et surprise de la libération de Hajar Raissouni. Une affaire qui l'avait poussée à coécrire un manifeste pour demander l'abrogation des lois pénalisant l'avortement et les relations sexuelles en mariage.
Aujourd'hui, il a fallu une grâce royale pour la libérer. Ça prouve encore plus que ces lois n'ont pas lieu d'être. Il faut qu'on continue à mettre la pression sur nos législateurs pour que ces lois changent et n'existent plus.
Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, invite les jeunes à investir les institutions.
Il va falloir qu'on continue de se battre pour élargir cet espace des libertés individuelles et collectives. D'autant plus que voilà une femme qui a été profondément humiliée et atteinte dans son intimité.
Président de l'association de lutte contre l'avortement clandestin, le gynécologue Shafik Shraibi est heureux de la libération de Hajar Raissouni, mais aussi du médecin.
Si l'avortement était légalisé, ce procès n'aurait même pas eu lieu. Il y a beaucoup de victimes de grossesses non désirées, des suicides, des enfants abandonnés dans les rues. Il faut absolument faire fin à tout cela. Il ne faut pas que cette dynamique s'arrête.
Alors que la réforme du code pénal est examinée au Parlement, les attentes des militants sont élevées.
La correspondance de Théa Olivier au Maroc. Les négociateurs européens et britanniques n'ont cessé de travailler cette nuit pour proposer un éventuel accord sur le Brexit. Le sommet des 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union, qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, est théoriquement le dernier avant le divorce du Royaume-Uni et de l'UE prévu le 31 octobre prochain. Et puisque les modalités de sortie ne sont toujours pas réglées, l'accord du Brexit devrait éclipser les autres dossiers à l'agenda. Dans l'attente de l'annonce d'un accord, les précisions d'Angélique Bois.
Ils sont pourtant d'un naturel prudent, mais cette fois, une partie des diplomates bruxellois ne cachait plus hier leur optimisme. Après avoir retourné dans tous les sens les différentes options, des solutions juridiquement robustes et opérationnelles auraient été trouvées sur la plupart des points de blocage. La frontière d'abord, Européens et Britanniques ont acté que le contrôle des marchandises qui circuleront entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, qui reste dans l'Union, ne sera pas sur leur frontière pour respecter l'accord de paix. Pas question pour autant qu'un poulet au chlore n'atterrisse dans l'assiette d'un Européen. Les contrôle réglementaire et douanier serait donc effectué en amont, sans pour autant que l'Irlande du Nord ne sorte complètement du territoire douanier britannique. Les négociateurs ont sans doute fait preuve de créativité sur ce sujet, car l'idée de frontière entre Londres et Belfast est un chiffon rouge pour les députés unionistes. Ils auraient aussi trouvé un terrain d'entente sur la nature de la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE. Reste à finaliser juridiquement cet accord et à le faire adopter par le Parlement britannique. Le feuilleton n'est pas terminé.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. Autre rendez-vous très important aujourd'hui sur la scène internationale, celui entre le vice-président américain et le président turc Mike Pence, envoyé par Donald Trump, va tenter de convaincre Recep Tayyip Erdogan de déclarer un cessez-le-feu. Ankara a lancé il y a plus d'une semaine une offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Les combats font rage, notamment à Ras Al Ain, et les conséquences humanitaires sont désastreuses. Les ONG internationales se sont retirées. L'offensive a provoqué l'exode de 160 000 personnes, d'après l'ONU. Notre envoyé spécial Aurélien Colli s'est rendu dans l'immense camp de Domis en Irak, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière syrienne.
Allez.
Une dizaine de préfabriqués au fond du camp de Domis et une centaine de Kurdes qui viennent d'y être installés. Assis sur une couverture, Chero est arrivé mercredi avec sa femme et ses 5 enfants. Je n'ai rien avec moi sauf les habits que je porte. On a passé 3 nuits dans les champs, dans les rues, avant d'atteindre la frontière. 3 heures de marche pour la franchir et 200 dollars chacun pour le passeur, explique ce quadragénaire qui voit sa vie tourner en boucle. C'est la deuxième fois qu'on fuit. À Kobané, Daesh nous avait attaqué et ça recommence parce que les milices pro-turques, ce sont des gens de Daesh, accuse-t-il, en déplorant l'abandon de la communauté internationale. On est très en colère, on n'a plus confiance en personne. Est-ce qu'on n'est pas des êtres humains? Est-ce qu'on n'a pas des droits? Interroge l'homme, pendant qu'à quelques mètres, Jinda étend du linge sur le grillage du camp. On a fait tant de sacrifices, 11 000 morts, 25 000 blessés contre Daesh, tout ça pour des bombardements turcs et le retour du régime, déplore-t-elle, en prédisant l'arrivée de milliers de réfugiés comme elle, même si la frontière est encore fermée. Il y a beaucoup de gens qui attendent à la frontière et il y en a déjà qui arrivent tous les jours avec des passeurs, confirme une responsable du camp, alors que les autorités kurdes et l'ONU préparent des milliers de places pour les accueillir ailleurs dans la région.
Aurélien Colli. Une troisième nuit de violence en Catalogne. Des centaines de manifestants masqués ont mis le feu à des barricades et incendié des voitures à Barcelone. La police régionale a signalé pour la première fois des jets de cocktails Molotov et d'acide. La marche qui précédait s'est déroulée dans le calme. Les manifestations durent depuis lundi et la condamnation de 9 dirigeants indépendantistes pour leur implication dans la tentative de sécession en 2017.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La maire voilée, prise à partie par un élu Rassemblement National au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, va porter plainte.
C'est ce qu'a annoncé hier le collectif contre l'islamophobie en France. Une première plainte doit être déposée aujourd'hui pour violences commises en réunion par personnes dépositaires de l'autorité publique sur mineurs et majeurs à caractère racial. Une seconde, cette fois pour provocation publique à la haine raciale par des élus. Hier soir, à Toulouse, à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand, Emmanuel Macron a tenté à son tour d'éteindre cette polémique sur le port du voile pendant les sorties scolaires.
Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. J'ai dit faire bloc. C'est ça la République. Faire bloc. Je pense qu'on peut le faire tous ensemble. En respectant pleinement notre laïcité, la force de celle-ci. Mais concentrons-nous sur l'essentiel, la menace. Ne divisons pas. Voilà. Je crois que c'est ça ma responsabilité dans ce moment. Et il ne s'agit pas de définir les bons points ou les mauvais points. Et sur ce sujet, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur et tout le gouvernement œuvrent chaque jour de la même manière pour faire bloc. C'est ce que j'appelle tout le monde. Après, il y a des gens qui sont payés pour faire des commentaires, c'est très bien. Le pays doit faire bloc et il continuera de le faire, croyez-moi.
Le président de la République, Emmanuel Macron. Il y avait foule hier dans la salle d'audience pour écouter Irène Frachon, la pneumologue de Brest, qui a révélé le scandale du Mediator, un antidiabétique souvent prescrit comme un coupe-faim et soupçonné d'avoir causé de nombreux décès. Elle a témoigné longuement devant le tribunal correctionnel de Paris qui juge depuis fin septembre les laboratoires Servier et l'agence du médicament. Le compte-rendu de cette audience très attendu par Florence Turme.
Avec le recul de ces 12 années d'enquête obstinée, Irène Frachon avoue une frayeur rétrospective. J'ai échappé de très peu à la tromperie Servier, ça me fait froid dans le dos, ça n'a tenu qu'à un fil de stopper cette histoire terrible au fait que j'étais marquée par le scandale précédent de l'isoméride aux États-Unis, quelques indices, des informations venues de la revue Prescrire et le cas de Joël, cette patiente atteinte d'une hypertension artérielle pulmonaire d'une exceptionnelle gravité. Son audition aura duré plus de 6 heures, très droite à la barre, Irène Frachon se lance dans un long monologue, entre leçons de médecine et exercices de vulgarisation, sans que sa voix ne faiblisse, schémas et courbes à l'appui, photographies de ses cœurs défaillants projetés sur le grand écran de la salle d'audience. À l'évidence, il y a eu une infinité de précautions pour qu'on ne s'aperçoive pas que le Mediator était un équivalent de l'isoméride à Santel. Le témoignage devient réquisitoire implacable. Irène Frachon mesure les enjeux judiciaires du procès, mais elle veut rester aussi la porte-parole des victimes du médicament, de toutes celles qui n'ont pas pu venir, notamment « Je suis comme elle ». Inconsolable, nous sommes inconsolables, répète-t-elle. Et dans la salle d'audience, le public l'applaudit.
Les salariés d'EDF font de nouveau grève aujourd'hui, comme il y a un mois lors de leur première mobilisation. Ils pointent du doigt le projet Hercule, voulu par le gouvernement et la direction d'EDF, projet qui vise à séparer l'entreprise publique en deux. Un EDF bleu avec le nucléaire, les barrages et le transport de l'électricité, et un vert avec les filiales Enedis, EDF renouvelable, Dalkia et la direction du commerce. Ce dernier, l'EDF vert, pourrait être introduit en bourse et donc attirer des investisseurs privés. Sandrine Lenry, secrétaire générale adjointe de Force ouvrière Énergie et Mines, s'inquiète.
Une privatisation, donc a priori, qui serait de l'ordre de près de 30%, donc où il y aurait effectivement des investisseurs privés, donc qui viendraient se mêler dans le distributeur, notamment Enedis. Des conséquences sur différentes chaînes d'emploi, où il y aurait des conséquences en termes de pertes statutaires, donc ce qui aurait effectivement un jeu de mobilité, un jeu de filialisation qui, au bout du compte, amènerait à une diminution drastique
de la masse salariale.
De la masse salariale, on peut effectivement l'optimiser, on peut voir les choses de cette façon-là, hein, quand on a effectivement des intérêts privés qui arrive dans un service public de l'énergie, on peut tout à fait s'attendre à ce genre de choses. Pour les citoyens, effectivement, on craint qu'il y ait comme conséquence une perte d'équité de traitement, notamment au travers du tarif, le tarif réglementé de vente qui existe aujourd'hui, qui permet à tous d'avoir une énergie compétitive à un prix accessible et à un prix, on va dire, plus bas que dans d'autres pays, notamment de l'Union.
Sandrine Lenry au micro de Samuel Monod. Les visiteurs du Louvre pourront bientôt admirer l'homme de Vitruve. La justice italienne a autorisé hier le prêt de plusieurs œuvres de Léonard de Vinci au musée parisien, dont ce célèbre dessin. Une association de défense du patrimoine ne voulait pas voir ses œuvres quitter l'Italie. Camille Magnard y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35. Le temps sera pluvieux aujourd'hui du sud-ouest vers le nord-est de la France. Le soleil fera de belles apparitions dans le sud-est, près de la Méditerranée. Il fait ce matin entre 9 et 14 degrés dans la plupart du pays. Cet après-midi, Météo France prévoit 15 degrés à Lille et Cherbourg, 16 à Paris et Nantes, 20 à Nice et Montpellier, Guillaume.
Merci Margot Delpierre. 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, on va parler du chlordécone, un pesticide extrêmement dangereux qui a été utilisé aux Antilles. Pourquoi l'a-t-on utilisé aussi longtemps ? Réponse dans quelques instants.